Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons découvrir les coulisses et les astuces d'un champion de France de triathlon. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42 et j'ai créé ce podcast avec Happy Run, des apiculteurs passionnés par la course à pied et amateurs de longue distance. Dans ce podcast, nous intéressons principalement à ce point important et si complexe, la nutrition, et la plus naturelle possible. Et nous avons décidé de partir à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs, de spécialistes de l'alimentation sportive. Il y a quelques mois, au championnat de France de triathlon longue distance, format L, les deux premiers étaient des athlètes professionnels. Le troisième était mon invité du jour, Adrien Leroux. Papa, maître nageur, directeur d'un espace aquatique, Adrien Leroux occupe bien ses journées, ce qui ne l'empêche pas de performer tout en soignant son équilibre familial. Ainsi, être papa de trois enfants et travailler tous les jours ne l'empêche pas d'être champion de France de triathlon longue distance dans la catégorie des 30-44 ans l'an dernier. Si vous n'êtes pas trop familier des formats triathlon, dites-vous qu'il est capable de parcourir 1900 mètres de natation, 92 km de vélo et 21 km de course à pied en 4h35. Une telle performance nécessite bien sûr beaucoup d'entraînement, entre 10 à 15 km de natation, 300 à 400 km de vélo et 50 à 70 km de course à pied par semaine. Alors bien entendu, la question que je vais poser, c'est comment carbure-t-il ? À quoi carbure-t-il ? Quel est son entraînement ? Quelle est son alimentation ? Comment fait-il pour se nourrir avant, pendant les entraînements, comment fait-il pour récupérer et comment fait-il aussi pour se nourrir pendant les courses? Et vous découvrirez que malgré cette pratique exigeante, il n'en reste pas moins un bon vivant qui tient à garder la notion de plaisir dans son alimentation au quotidien. Au point qu'un de ses partenaires m'a vraiment surpris et nous en avons discuté. Et puis Adrien nous a livré aussi quelques astuces, notamment celles qu'il utilise pour bien supporter les ravitaillements avant les compétitions. Et vous verrez que justement, l'alimentation fait aussi partie de l'entraînement. Enfin, nous allons aussi parler de son défi du moment parce que au moment où nous allons diffuser cet épisode, Adrien prendra le départ du triathlon XXL le plus exigeant de France et d'Europe, le mythique Imbraman dans les Hautes-Alpes. Jugez plutôt 1800 mètres de natation dans une eau à 6 degrés, 180 km de vélo avec 5000 mètres de dénivelé dans un parcours d'état du Tour de France et un marathon avec 1500 mètres de D+. C'est une épreuve vraiment mythique qui a demandé jusqu'à 30 ans d'entraînement par semaine. Nous allons donc maintenant découvrir comment il prépare tout ça. C'est parti pour cet épisode qui nous fait entrer dans les coulisses de ce triathlète d'élite. Bonjour Adrien.
Bonjour Bertrand.
Comment vas-tu ?
Ça va. Vous aussi ?
Moi, ça va très bien. On a un beau soleil aujourd'hui. Alors, je précise toujours un petit peu, comme les dates de diffusion sont un petit peu éloignées, on est le 18 juin aujourd'hui. Il fait très beau, j'imagine que chez toi aussi ?
C'est un peu moyen, pareil. Dans la région, là, on a eu un peu de pluie aujourd'hui, un peu orageux. Donc, on espère revoir le soleil d'ici peu.
Alors, ça peut paraître un peu trivial, les gens se demandent toujours pourquoi je demande quel temps il fait, quelle est la météo, mais comme on fait du sport et qu'on est quand même souvent dehors, c'est bien d'avoir un temps un peu sympa pour s'entraîner.
C'est vrai que c'est quand même plus appréciable. Après, quand on est motivé et fixé sur des objectifs, le temps importe peu. Là, aujourd'hui, j'ai roulé une heure sous la flotte, entre guillemets, et du coup, j'ai pris quand même du plaisir à y aller, mais avec le soleil, c'est encore plus agréable.
Alors, pour l'instant, on n'a pas fait les présentations. Moi, on va les faire rapidement, en fait. Tu vas déjà dire quelle est ta discipline. Et puis, on va rentrer un petit peu dans les subtilités de la discipline parce que c'est peut-être pas très clair pour tout le monde, en fait. Alors, je vais te laisser te présenter, dire la discipline, etc. Et puis ensuite, on rentrera un peu dans les subtilités.
Ok. Donc, je suis triathlète. Donc, je pratique le triathlon depuis 7 ans maintenant. Donc, avec un parcours un peu atypique, hein. J'ai commencé tout petit par la natation, je suis passé par l'équitation et la voltige équestre, et puis je suis arrivé sur le triathlon un peu sur le tard, grâce un peu à mon métier, puisque je suis maître nageur et puis j'ai été directeur d'établissement sportif, donc toujours un pied dans le sport, et j'y ai pris goût, et voilà, donc j'ai développé au fur et à mesure... on va dire la pratique et en essayant de me fixer des objectifs que j'ai réussi à atteindre au fil du temps.
Oui, et puis alors, de sacrés beaux résultats en plus, il faut le dire, parce qu'il y a un podium national il n'y a pas longtemps là.
Oui, exactement. Oui. Donc, cette année, j'ai participé au championnat de France de triathlon longue distance et donc je suis monté sur la troisième marche du podium de ma catégorie d'âge, donc qui est senior 3, hein, 30-34 ans. Et je suis quand même plus que satisfait dans le sens où je suis arrivé derrière deux professionnels. Donc c'est quand même plaisant de pouvoir se mêler à la bataille, sachant que ces personnes juste devant moi sont, sont, voilà, c'est leur métier, donc ils font ça tous les jours, ils ont le staff qui est derrière, donc quand on a, nous, la petite famille, le travail, etc., on est quand même satisfait du résultat.
Alors, c'est là où justement on va rentrer un peu dans les subtilités, parce que tu as parlé de distance, et peut-être que les gens ne sont pas familiers, ceux qui écoutent, sur les différentes distances qu'on a en triathlon. Toi, tu es sur quelle distance, quelle discipline exactement?
Donc après triathlon, donc natation, vélo, course à pied, c'est vrai qu'il y en a pour tout le monde. Hein. Ça commence du XS, hein, vraiment pour les débutants. On est sur 300-400 mètres de natation avec 10 de vélo et 2-5 à 3 km de course à pied. Puis on franchit les échelons, un peu comme les marques, les tailles de t-shirt. Voilà, c'est XS, S, M, L, XL, XXL. Donc j'ai commencé moi par le S, donc il y avait 750 mètres de natation, 5 et 20 en vélo et 5 à pied. Et puis progressivement j'ai progressé et là en ce moment je suis plus ciblé sur le longue distance. Donc c'est entre 1,9 km de natation jusqu'à 3 km, 90 à 100 km de vélo et environ 21 km à pied.
Voilà, et pour ceux qui se posent la question encore par rapport à l'Ironman, ils disent mais c'est quoi la différence avec l'Ironman? On n'est pas encore sur cette distance-là en fait, hein.
Non, non, du coup pour l'Ironman, il faut doubler encore, donc 3,8 en natation, 180 en vélo et 42 à pied, le marathon pour terminer.
Moi, je m'intéresse un petit peu à la discipline, mais de loin. Mais en fait, je me suis fixé un objectif Ironman, mais comme ça, dans 2 ans, histoire de dire. Comment finalement tu dis le triathlon? C'est quoi la quel plaisir tu prends dans le triathlon et quelles sont les grandes difficultés quand on veut se mettre au triathlon, quand on veut progresser dans cette discipline?
Donc le plaisir que je prends dans le triathlon, c'est moi c'est pas monotone, donc on a trois disciplines vraiment différentes. Après même sur les coupures, même sur l'hiver, on peut pratiquer d'autres choses qui va nous servir derrière sur le travail d'endurance ou de fond. Vraiment je prends beaucoup de plaisir à ça, découvrir aussi différents endroits, aller à la fois voilà, nager en extérieur, à la piscine, les randos, VTT ou sur route, trail ou à plus sur piste. Vraiment, c'est vraiment très très varié. Donc ce côté-là est vraiment top. Et puis après au niveau motivationnel, il y a voilà, le défi personnel de se prouver un peu de quoi on est capable. Il y a le côté bonne ambiance du triathlon où c'est tout le monde sent, voilà, ça reste un sport individuel, mais à la fois tout le monde se soutient dans l'effort et après l'effort. Il y a le côté aussi assez familial. Voilà, quand on part sur des courses un peu plus loin dans la région, il y a le côté où on va partager avec les collègues, avec la famille, on découvre du pays. Vraiment, c'est les choses qui m'ont vraiment poussé à maintenir les efforts et à continuer dans cette discipline.
Et pour autant, j'ai l'impression que c'est quand même une discipline qui est un peu tatillonne sur. Il y a tout un tas de règles, il y a tout un tas de langages sur ce qu'on a droit de faire, pas droit de faire, sur les zones où on peut faire les transitions, etc. Il y a quand même plein de petits pièges, j'ai l'impression.
Oui, effectivement, comme dans tout sport, après, il y a chaque sport a son règlement. Une fois qu'on a bien pris en compte l'ensemble des choses et puis qu'on pratique régulièrement, ça devient quasiment automatique. Mais moi, c'est des valeurs quand même qui sont intéressantes. Tout est vraiment normé, réglé. Donc, au niveau du parc à vélo, donc il y a un départ de natation, on revient dans le parc à vélo pour du coup retirer ses affaires de natation et puis chevaucher son vélo, mettre son casque et partir. Et puis la même chose au retour du vélo pour mettre les baskets et ressortir. Après sur les différentes règles au niveau du vélo, il faut savoir que les déchets que l'on, bah, au niveau de la nutrition, tout ce qu'on prend, gel, barre, etc., c'est vraiment normé aussi. Il y a des zones exprès pour jeter les déchets et que ça ne reste pas dans la nature. Donc ça, je trouve ça hyper respectueux. Et même au niveau de l'organisation, ils équilibrent les choses entre la mixité, entre le fait de respecter l'environnement avec les nouveaux bah, gobelets en carton, tout ce qui est éco-responsable, entre guillemets. Donc je pense qu'ils avaient même une petite longueur d'avance quand on voit le cyclisme au niveau de la compétition. Ils commencent à le faire depuis cette année. Mais toutes ces règles-là, au final, ça a fait aussi partie du fait que j'ai adhéré à tout ça et que ça m'a, entre guillemets, facilité l'apprentissage puisque c'était des choses que je défendais au plus profond de moi-même.
Oui, mais c'est super intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai, ces histoires de... Alors, on a l'image des coureurs cyclistes qui balancent les bidons un peu partout.
C'est
Alors
ça.
maintenant, ils ont mis des contraintes, il y a des endroits où ils n'ont plus le droit de le faire, ils se prennent même des pénalités, etc.
Oui.
En course à pied, le nombre de déchets, de papiers qu'on trouve sur les courses, après les courses, sur les entraînements, j'en ai encore pris en photo il n'y a pas très longtemps. C'est vrai que... Alors là, il y a quoi? Il y a des règles, il y a des pénalités, il y a des gens qui surveillent ce que vous faites?
Et oui, il y a des arbitres, voilà, des personnes qui sont, on va dire, présentes pour surveiller les actions des coureurs. Donc, s'il y a un coureur pendant la course, que ce soit en vélo ou à pied, fait tomber un papier, il est prié de le ramasser. S'il ne le fait pas, il est disqualifié. Voilà. Donc comme ça, il n'y a pas le choix. Si on veut passer la ligne et être classé, il faut respecter cette règle. Et je trouve ça plutôt bien pour l'environnement.
Ouais, c'est cool. Alors comme ça, t'es lancé à pleine vitesse sur ton vélo, t'essayes de te ravitailler, tu fais tomber un truc. Faut que tu t'arrêtes, tu vas le rechercher,
C'est
tu
ça.
repars.
C'est ça, exactement.
Ouais, moi je trouve ça
Donc oui,
cool. Ouais.
pas le choix, pas le choix.
Non, mais je trouve que c'est bien parce que c'est vrai que ces déchets qui traînent à droite à gauche, etc., ces petites fioles de gel partout, c'est vrai que ça pourrit l'environnement. Et sur le trail, les gens qui disent qu'ils sont amoureux de la nature mais qui laissent traîner des papiers, des choses partout à droite à
Oui.
gauche, c'est quand même bien dommage. Et c'est bien que je trouve que la fédération comme ça prenne en compte ce genre de mesures qui sont bonnes pour l'environnement et qui finalement aussi évite qu'il y ait des bénévoles qui le fassent pour vous, quoi.
C'est ça, ça responsabilise aussi un peu l'athlète. Et puis, bah, mine de rien, avec le développement un peu de la discipline, et ça se développe aussi au niveau des enfants, des écoles de triathlon. Et de fait d'inculquer ça, c'est vrai qu'on va aller après sur un comportement un peu plus durable et respectueux de l'environnement. Je trouve ça plutôt chouette.
J'ai souri en regardant ta page Facebook sur où tu fais où tu parles justement de ton résultat à Cannes-sur-Mer hein, au championnat et tu dis je fais une natation correcte à Salomé entre les 400 nageurs partis plus tôt. Alors toi,
Oui,
t'es quand même un bon nageur.
c'est ça. Là, je viens de la natation à la base. Après, j'étais plus sprinter, donc j'ai mis un peu de temps à m'acclimater, un petit entre guillemets. Mais oui, sur les chronos, voilà, j'aurais pu sortir quasiment si j'étais parti en même temps dans la même vague avec les pros. Donc là, effectivement, ça a été un peu gênant de partir. Dans les sas derrière. Après, voilà, le protocole sanitaire était comme ça et on a pu faire la compétition et du coup c'était un réel plaisir quand même. Donc voilà, il y avait le pour, il y avait le contre. Dans tous les cas, je suis heureux d'avoir pu participer et du résultat.
J'ai envie de dire comment on gère, et là on va venir sur l'aspect nutrition, parce que c'est quand même trois disciplines qui on peut dire qui sont complémentaires parce que tout le corps travaille, etc. Mais il y a quand même un truc qui, moi, on m'a toujours dit, c'est il y a un moment donné, tu pars à l'horizontale quand tu nages, et puis après, tu passes sur du vertical.
Oui, donc l'adaptation, c'est vrai que sur les premières courses, en fait, c'est le fait de pratiquer, hein, de se lancer tranquillement. Les premières fois, quand on sort de l'eau, on se demande ce qui se passe, la tête tourne un peu, on va enfourcher le vélo, bon, on n'est pas totalement lucide, puis au fur et à mesure, ça devient quasiment automatique. Comme l'enchaînement aussi vélo-course à pied, où les premières fois on part, on dit non, mais ça va pas être possible, là, les mollets ils vont jamais tenir, les cuisses non plus. Et puis voilà, le corps au fur et à mesure des entraînements s'adapte. Puis derrière, il y a tout, en fonction de la distance, tout l'aspect nutritionnel qui va rentrer en compte, hein, notamment sur la longue distance, ou si on fait des erreurs justement dans la nutrition, on oublie un ravito ou oublie de bien s'hydrater, on va le payer cash sur la course à pied.
Je me rends pas compte du tout sur ce genre d'épreuve. Tu as des ravitaillements, tu gères toi-même ton ravitaillement, tu pars avec, j'ai envie de dire, tout dans des poches. Comment on gère ça en fait?
Il y a plusieurs façons de le gérer, puis en fonction des courses. Là, avec la crise sanitaire, on a beaucoup été en autosuffisance sur tout ce qui était gel énergétique, barre, tout ce qui est un peu solide au niveau ravitaillement. Par contre, on avait quand même la possibilité d'avoir des ravitaux sur le parcours vélo ou en course à pied au niveau de la boisson, soit la boisson énergétique, soit eau. Et en temps normal, on a des ravitaux avec les deux. À la fois des ravitaillements solides, un peu plus pour manger et d'autres pour s'hydrater.
D'accord. Alors, justement, moi, ce qui m'intéresse, parce que Moi, la natation, c'est pas mon truc, tu sais. Je passe tellement de temps, je fais des zigzags dans tous les sens, etc. Moi, je me dis, si je dois partir pour nager 1900 mètres, là, comme ça, je vais y passer un temps fou. Moi, je me rends pas compte dans combien de temps tu le fais, toi.
Là sur le par exemple si on prend les championnats de France j'ai mis 26 minutes 30 à faire les 1900 mètres donc ça fait aux alentours d'une 20 et quelques de moyenne aux 100 mètres.
Ouais, donc là, enfin, t'as pas un problème de ravitaillement en route, je veux dire, sur un,
Non.
c'est un temps très court, quoi.
C'est ça, sur la natation, ouais, non, c'est pas de ravito. Alors après, quand on arrive à des ravitaillements en natation, c'est plus sur des courses d'eau libre où on va aller vers le 5 km, 10 km, voire 25 km pour les plus grandes distances. Mais non, 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 on part, on fait la natation. Après, quand on est sur de longues distances, dès qu'on prend le vélo, on va prendre un gel ou une barre énergétique, et puis on va s'hydrater, et puis on va lancer le processus nutritionnel là sur la course. Donc, pour donner une petite idée, sur du long, on boit toutes les 15 minutes et on s'alimente toutes les 30 minutes.
Tu bois quoi?
Donc, j'ai testé plusieurs choses. Dans l'idée où il faut faire attention, il y a un petit point stratégique, c'est qu'en fonction des courses, ils nous annoncent à l'avance le type de boisson et quelle marque ils vont nous donner sur leur ravito. Donc souvent, moi, quand je joue à une compétition avec un gros objectif, j'achète la marque en question pour m'habituer, puisque au final, j'aurais pas trop le choix de prendre et de boire cette boisson. Sinon, à l'entraînement, j'ai suivi les conseils de Leïla et Pascal, hein, qui développent la marque Happy Run. Donc, ils m'ont conseillé de prendre de l'eau, un peu de jus de citron, du miel, rajouter un petit peu de sel, et de faire les boissons, en fait, une boisson qui ressemble et qui s'assimile le plus facilement possible. Donc ça ressemble le plus au plasma sanguin. Et après, voilà, différentes marques, je ne vais pas les citer, mais voilà, j'ai déjà goûté à tout pour m'habituer en quelque sorte et pas être dérangé le jour J quand on est sur l'objectif.
Tu sais que t'as des marques, alors là c'est un truc qui m'intéresse. Est-ce qu'il y a des marques où vraiment tu sais que enfin ça va mal passer, que c'est plus compliqué, ou finalement c'est avec l'entraînement t'arrives à t'adapter à peu près à toutes les marques?
Il y a des marques hyper sucrées. Je n'ai pas tous les noms en tête, mais ouais, il y a certaines marques très très sucrées que j'ai vraiment du mal à assimiler, où ça, voilà, ça me donne des maux de ventre, etc. Donc cela, je croise les doigts pour pas les retrouver sur les gros objectifs. Ou alors, j'essaie de faire deux gros bidons que je mets sur mon vélo et puis d'en prendre le moins possible si, pendant la course. Donc il y a les Oversteam qui pour moi voilà, est beaucoup trop sucré, me convient pas et convient à d'autres certainement. Moi, je suis vraiment sur des ravitaillements, que ce soit au niveau d'hydratation ou au niveau solide, et avec mon expérience où je me suis orienté vers des produits beaucoup plus naturels pour justement moins subir toutes ces matières un peu, on va dire, transformées et qui vont un peu détraquer l'estomac au fur et à mesure du temps. Et surtout après course où quand j'utilisais des gels un peu de marque aussi, ça pouvait être Power Punch, ça pouvait être Overtwins, j'avais de grosses douleurs au final au niveau du ventre après les courses, et je ne pouvais pas profiter comme je devais le faire en famille, etc., où j'étais vraiment bloqué. Et depuis que j'utilise ces produits naturels, notamment les produits Happy Run, j'ai aussi notre marque au niveau des barres, et on en avait discuté avec Pascal et Leïla, c'est 42 Délices, c'est vraiment des locaux où ils travaillent avec des produits locaux et ils respectent les temps de cuisson, les températures, etc. Et depuis, je suis vraiment soulagé et je peux profiter et consommer sans problème derrière. Donc, je continue sur cette lancée et j'essaye d'en parler autour de moi pour pouvoir voilà, développer un peu tous les bons produits qui se font sur le local.
Oui, j'ai un peu de mal à me rendre compte d'ailleurs de la quantité de liquide, d'alimentation qu'on peut absorber. Parce que faut le dire, la course, les championnats de France, c'est 4h35, hein, donc c'est la distance paraît longue pour quelqu'un qui en fait pas. Moi, je me dis, mais c'est fou de rouler à cette vitesse et de courir à cette vitesse. Mais c'est quand même, ça puise quand même sacrément dans le corps. Il faut du carburant là, hein.
Oui, exactement. Donc là, après, il va y avoir les conditions météo qui vont jouer un peu, mais voilà, on est sur 1 litre 5 à 2 litres quand même au niveau hydratation. Là, pour les, donc j'avais des les gels, c'était des sticks miel à Pierron. J'en ai pris 4 sur le vélo. J'ai mangé 2 barres 42 délices. Et puis à pied, j'ai repris deux gels à Pierron au niveau gel des sticks miel. Donc ça, voilà, sur une course, ça fait en tout là sur les championnats de France 6 sticks miel, 2 barres plus l'hydratation où j'avais donc c'était une boisson. Isotonique avec des minéraux, etc. Voilà, d'une marque d'un grand magasin sportif français. Voilà.
D'accord, oh, tout le monde voit qui
Voilà.
c'est. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que tout le monde se pose la question de savoir si c'est des bons produits ou pas des bons produits. Il y a toujours des grands débats là-dessus en se disant, mais après, c'est bien de voir, de dire aussi hein, que tu peux avoir ce niveau de performance avec ces types de produits-là aussi.
Oui, après, je pense qu'ils maîtrisent leur sujet quand même, et même par rapport à d'autres marques, ils sont plutôt bien placés en qualité et en tarif. Derrière, au niveau des goûts, c'est pas mes préférences, on va dire, mais après, c'est juste une question de goût, hein. Mais voilà, ça reste très correct.
Alors, arriver à telle performance, c'est je me dis, tu dois passer des heures et des heures chaque semaine en train de nager, de rouler, de courir, etc. Je vois à peu près sur un article que j'avais trouvé là où on voit ton kilométrage. Tu peux à peu près nous dire là en ce moment à combien t'es?
Donc oui, ça dépend après des périodes. Sur les grosses périodes, surtout quand on est en train de faire du long, je suis voilà, aux alentours des 15-20 heures d'entraînement max par semaine. Ça va peut-être déborder un petit peu là si je vais m'orienter normalement sur l'Embrunman, qui est un Ironman du coup sur Embrun, un peu difficile, mais là du coup on va monter tranquillement, mais sur une base moyenne on va dire de préparation sur des longues distances, je suis sur 400 km de vélo par semaine, 60 à 70 km à pied et environ 10 à 15 km de natation.
Wow.
Donc voilà. Après, voici une habitude, une organisation. Une fois qu'on est dans le bain et qu'on a les objectifs en tête, on se motive tous les jours à se lever de bonne heure pour aller nager le matin, courir le midi dès que possible ou rouler. Et puis des fois, je vais même en vélo au travail, je reviens en vélo. Voilà. On s'organise comme on peut pour caser les séances.
Je me posais une question parce que tu disais que t'es directeur d'un espace aquatique. T'as une piscine, tu peux t'entraîner au bureau? Enfin, au bureau, je sais pas si on peut.
Oui. Si, ouais, presque au bureau, ouais. J'ai pas long à faire, mais oui, je suis directeur du coup de l'Aquafitness de Lernay, hein, donc une piscine centre aquatique et de fitness sur Lernay en Mayenne. Et donc effectivement, ça me facilite beaucoup la tâche, hein, puisque dès que je vais prendre une petite pause, ça soit le midi ou le matin avant d'arriver au travail, je peux aller nager, même si après les contraintes ont été un peu plus importantes là avec la période Covid, mais on a réussi en Mayenne à pouvoir toujours nager puisqu'on avait un bassin extérieur sur Laval, un bassin de 50, et on se levait encore plus tôt pour pouvoir y aller et puis faire sa journée de travail.
Ouais, mais c'est vrai que c'est des conditions qui sont pas faciles parce que les piscines, faut avoir des accès. Alors les clubs, je sais même pas si les clubs avaient des accès particuliers. Je sais que les sportifs pros avaient des accès particuliers eux, hein, pour y accéder.
Oui.
Peut-être pas ton cas à toi.
Après, je suis aussi donc le directeur de la piscine, mais à la fois je reste maître nageur de formation. Donc, en tant qu'éducateur sportif, on faisait partie des publics prioritaires pour pouvoir aussi aller nager. Donc, effectivement, ça m'a facilité aussi la tâche quand nous on a fermé un peu la piscine et refait des travaux. Du coup, j'ai pu aller nager dans d'autres piscines. Donc, j'ai pas été pénalisé comme certains licenciés ou pratiquants qui ont été complètement bloqués en fonction des régions. Mais non, moi j'ai vraiment plus pu continuer et même améliorer un peu cette partie de natation pendant que les autres étaient un peu coincés.
Bah écoute, hein, faut tirer profit de tous
Voilà.
les outils qu'on a sous la main. Et écoute, c'est la règle du jeu.
C'est ça.
Alors, tu dis tu passes 15 heures à avoir plus d'entraînement. Au quotidien, Comment tu gères justement l'aspect alimentation, récupération aussi, parce que il faut enchaîner, parce que c'est quoi, c'est du bi-quotidien en entraînement?
Quasiment, ouais, on est ouais, bi-quotidien, voire des fois on triple. Donc après, au niveau de l'organisation, je fais ça coupe pas là, parce que du coup, j'ai
Non.
l'impression que ça. Donc pour l'organisation, je fais confiance. J'ai un coach qui me suit au niveau des séances. Hein, donc Nicolas Tardieu, qui est un ancien très bon triathlète qui a gagné toutes les distances du S à l'Ironman. Et donc, il me fait mon programme en fonction de mes objectifs. Derrière, je crois que j'ai perdu le fil, mais on était sur la question.
Oui, comment tu gères l'alimentation, la
Ah, voilà.
récupération, je sais pas, des repas types, t'as des nombres de collations particulières, peut-être je sais pas combien tu fais de repas dans une journée d'ailleurs.
C'est donc après je reste quand même simple, hein. J'essaie de me donner les moyens, mais je me prends pas trop la tête avec ça. Je fais des bons repas variés avec produits, comme je disais, naturels, locaux. Derrière, bien sûr, après une séance, voilà, je vais manger une banane ou voilà, je vais faire une petite collation pour justement recharger un peu les batteries. Sur les grosses sorties vélo, je remange bien derrière et je vais reprendre des boissons un peu plus protéinées pour éviter d'impacter trop la masse musculaire. Et puis derrière, je consomme voilà, à bloc les produits Apeiron et les produits 42 d'Hélice pendant mes entraînements, ou même après, des fois les gâteaux sport ou les choses comme ça, du coup fait par Pascal et Leïla. Et puis voilà, après je me fais aussi plaisir, je me stresse pas trop avec l'alimentation. Derrière, il faut garder une notion quand même pour moi qui est importante, hein, au niveau du plaisir, pour pas basculer dans voilà dans une pratique où voilà on maîtrise plus du tout, on subit. Et puis voilà, je suis aussi pas père de famille, donc j'ai trois filles et j'ai envie de partager ces moments-là avec elles et leur inculquer des bonnes valeurs et pas justement être dans l'extrême, de faire attention, peser tous ces aliments, etc. Donc non, à la fois je fais attention, à la fois je reste simple dans ma pratique et simple, voilà, sans me prendre la tête sur l'alimentation.
T'as des conseils justement sur la partie récupération? Est-ce que tu fais attention par exemple à boire suffisamment? Est-ce que tu surveilles peut-être plus certains aspects que d'autres parce que tu t'es rendu compte que des fois, bah si tu, je sais pas, si tu bois pas assez, si tu prends pas assez de sel ou j'en sais rien. Je te donne des trucs comme ça parce que est-ce que t'as des points où tu te dis attention, faut que je fasse attention à ça quand même, à surveiller plus précisément parce que je sais que ça me pose problème.
Je fais quand même attention effectivement à l'hydratation, surtout après les grosses séances ou quand il fait bien chaud, ou même l'hiver, on n'a pas l'impression, mais quand on est bien habillé, on transpire bien. Non, je me réhydrate bien derrière. Après, je suis plus moi, j'utilise beaucoup les eaux gazeuses Ceinture ou Vichy, puisqu'elles sont plus chargées en minéraux, donc on va recharger un peu de ce côté. La ceinture est aussi chargée en bicarbonate, et donc elle va tamponner un peu l'acidité des muscles. Donc voilà, j'en consomme quand même pas mal. Et puis après, j'alterne aux plates, aux gazeuses, plus, comme je le disais tout à l'heure, des boissons un peu protéinées pour recharger les batteries. Mais voilà, pas plus que ça. Derrière, je sais qu'il faut que je boive voilà, environ 1 litre, 1 litre 5 après mes grosses sorties, voire 2 litres en fonction de si c'est, je pars sur des 150 ou 180 km. Mais voilà, je reste, on va dire, logique et je me prends pas la tête comme j'ai tout à l'heure.
Tiens, alors ça c'est un truc tu vois, qui est intéressant, sur lequel j'avais pas tilté. On parlait des distances globales que tu fais. Est-ce que tu travailles des choses, parce que tu dois travailler la vitesse, la résistance, tu dois travailler l'endurance. Enfin, t'as dû avoir beaucoup de types de séances quand même dans une semaine.
Oui, c'est varié, c'est ça aussi qui fait qu'on s'ennuie pas. Donc on a, en fonction des distances, voilà, quand on est un peu plus sur du court, on va travailler un peu plus la VMA, la vitesse, hein, pure. Quand on est sur du long, plus des allures seuil ou de l'aérobie. Donc oui, on peut très bien avoir dans une semaine des petits rappels de vitesse sur des temps courts mais très intenses, et puis des séances où on est sur une intensité beaucoup moins élevée. Et on doit tenir sur des temps un peu plus longs, de 20 à 30 minutes, voire plus, sur le vélo.
Ouais, donc c'est pour ça que je me disais, il y a des moments où c'est plus explosif, des moments où t'es plus sur de la gestion longue, parce que par exemple une sortie longue vélo, enfin je sais pas, tu pars combien de temps tes sorties les plus longues?
C'est 5 à 6 heures, hein, les plus longues. Et là, sur la prépa Ironman, ça va être 7-8 heures, ça va être plus de 200 km. Donc, il faut un peu de temps dans la journée où voilà, on fait le week-end quand on peut, on essaie de s'organiser. Mais voilà, après, derrière, il faut aussi être conscient des grosses sorties. Et là, c'est le coach qui va m'aider dans ça pour derrière placer des séances, on va dire, qui vont pas trop accentuer mon état de fatigue, et justement pour pouvoir continuer à progresser et parfait sur les objectifs fixés.
J'étais en train d'essayer de regarder en brun. Moi, c'est vrai que ça me semble être quand même le. C'est la grosse référence quand même, hein, comme course. Hein.
C'est une des courses mondialement connues au niveau de la difficulté. Il y en a d'autres, hein, qui sont très très dures. On a le Norseman en Norvège avec des conditions climatiques, et puis un dénivelé faramineux. Le Lapsman aussi, où on finit le marathon. Concrètement, entre 15 et 20 derniers kilomètres, on gravit on monte jusqu'au sommet. Donc, non, ça fait partie, ouais, des courses références. Une fois qu'on s'est fixé ses objectifs et qu'on le remplit, je pense que c'est une satisfaction personnelle. Et puis après, il y a aussi on va dire, le processus derrière, familial, où on va partir. C'est un projet familial finalement, puisque derrière, ça demande beaucoup d'investissement. Tout le monde est investi dans le projet. Et puis, c'est l'objectif. Le jour de la course, c'est quand même l'aboutissement, où on va partager ça en famille. On va profiter de là-bas des superbes paysages, passer du bon temps, les vacances, etc. Donc voilà, on allie l'ensemble des choses malgré la difficulté de l'épreuve.
Ouais, alors pour ceux qui se rendent pas compte quand même, c'est que par exemple en vélo, l'altitude minimum en vélo c'est 779 mètres et ça monte à 2361 mètres.
C'est ça, oui. C'est énorme, ouais. C'est le col de l'Isoire, hein, donc, quand on passe les 2000 mètres, l'oxygène commence à se faire un peu plus rare. Pour avoir bien subi sur une course un peu du style, c'est le triathlon, la longue distance de l'Alpe d'Huez, que j'ai fait en 2019. Et j'ai vraiment passé une journée aux enfers, où j'étais content de terminer, mais j'ai passé une bonne natation. Et après, ça a été l'horreur sur le vélo. Il faisait très chaud, je me suis mal alimenté à l'époque, donc j'ai appris de mes erreurs avec des produits que j'arrivais. Voilà. On m'avait donné certains produits d'une certaine marque, qu'au final, j'avais pas eu le temps de goûter, de tester à l'entraînement. Donc, ça passait pas forcément super bien. J'avais pas respecté les temps d'hydratation. Et puis, voilà, j'ai complètement explosé en plein vol dans le dernier col, hein, quand on monte à l'Alpe d'Huez. Et la course à pied était juste un calvaire. À 2000 mètres d'altitude, on a plus, voilà, il y a moins d'oxygène, il fait chaud, voilà, j'ai mis 2 heures à faire les 20 km, j'ai terminé tant bien que mal, mais ça l'a fait. J'en garde une bonne expérience tout de même, mais c'était vraiment très très compliqué. Donc ouais, comme on peut le dire, dès qu'on est en altitude, on a intérêt d'être un peu préparé.
Ouais, mais d'un côté, c'est vrai que, comme tu le dis, c'est que t'as appris beaucoup de ce type d'expérience, parce que j'imagine quand tu reviens d'une course comme ça, tu te dis, ouh là là, il y a vraiment des trucs qu'il faut que je change là, quoi.
Bah oui, ça c'est en faisant les courses, hein, mine de rien, hein, qu'on apprend, hein, comme tout dans le travail. Au fur et à mesure, on construit son expérience, et là on voit bien ce qui surtout quand ça marche pas, là on se dit bon, on va changer quelques petites choses pour pas recommettre les mêmes erreurs, et on croise les doigts pour que la prochaine fois ça passe. Et puis au fur et à mesure, on apprend, on retient ce qui fonctionne, on enlève ce qui fonctionne pas, et puis ça progresse tout doucement.
Et surtout qu'en fait, finalement, quand on regarde un petit peu, tu dis ça fait 7 ans, 8 ans que tu fais du triathlon.
Oui.
Oui,
Ça fait.
t'es assez récent, j'ai envie de dire, parce que tu dis t'as fait de la natation, t'as fait de l'équitation,
C'est
t'as un
ça.
parcours un peu
Atypique.
atypique. Alors, je sais pas si d'ailleurs l'équitation t'aide à être plus adroit sur ton vélo.
Ça m'aide un peu dans les descentes, justement. Je suis un peu casse-cou, donc souvent, je gère mes montées dans l'école, par exemple, sur les parcours un peu montagneux. sur le plat, voilà, ça reste correct. Et en descente, là, notamment au championnat de France, c'est là où j'ai gagné un peu de temps, quoi. Donc, ouais, ça me permet, ouais, de pas trop réfléchir, de pas avoir trop peur, même s'il faut rester prudent, hein, parce que, voilà, on n'est pas à l'abri d'un accident. D'ailleurs, sur les championnats de France, un de nos collègues a pris est tombé lourdement. Voilà, il faut quand même garder la sécurité en tête, après prendre des risques entre guillemets mesurés pour pas mettre sa vie en danger et la vie des autres.
Alors, il y a un truc qui, je dois te le dire quand même, qui m'a amusé quand j'ai regardé un petit peu ta page Facebook. Sur les sponsors, t'as une pizzeria.
C'est ça, oui. Exactement. Il faut se faire plaisir aussi de temps en temps, hein, sans la bouffe. Non, non, oui, c'est un ami, pour la petite histoire, du coup, Tony Beignet, hein, donc, qui tient la pizzeria Le Basilica à Ernée, est un ami de longue date. On a commencé le triathlon, hein, finalement, ensemble. Lui s'orientait plus sur le trail et derrière, on est toujours resté en contact. Et puis, quand je me suis lancé sur les épreuves un peu plus longues, qui demandent, mine de rien, un investissement aussi, on va dire financier, il a été un des premiers à me soutenir dans ces expériences.
Ouais, donc et ça veut dire qu'aussi tu vas manger, parce que tu disais il faut se faire plaisir, tu as 3 enfants,
Oui.
donc ça veut dire que y a quand même des moments où, hors préparation, faut relâcher un peu la pression, y compris sur le plan alimentaire.
Oui, non, là-dessus, je suis pas le bon exemple des fois à suivre. Hein. Non, non, je me fais vraiment plaisir, je mange de tout. Voilà, après, quand j'ai les objectifs, on va surveiller un tout petit peu plus à pas aller trop dans les excès, mais non, là-dessus, même voilà, boire une petite bière de temps en temps, ou un bon petit verre de vin, ça me dérange pas.
D'accord. Alors peut-être tu as un avis sur la bière de récup, est-ce qu'elle est efficace ou pas, ou est-ce que finalement t'as autre chose?
Donc non, après j'aime bien les bières justement à Pierronne ou même d'autres, mais elles passent bien là, avec le miel, elles sont super bonnes. Non, après une course, on voit même, hein, les cyclistes, quand on voit quand ils fêtent leur victoire, voilà, ils ont tous une petite bière. Après c'est faut juste, on va dire, en consommer de manière raisonnable, et derrière ça fait toujours plaisir entre guillemets, et puis ça apporte quand même des petites choses, des minéraux, etc., des bons pour améliorer justement la récup, hein, sinon on le dirait pas.
Ouais, ben non, mais après il y a des avis partagés, il y en a qui disent oui ça marche, d'autres ça marche pas, etc. C'est intéressant, tu vois, à chaque fois que j'ai un invité, je lui pose la question pour voir un petit peu son avis. Une autre question que je pose toujours à mes invités, c'est de savoir s'ils ont des petits trucs, tu vois, des petits secrets, des petits trucs, tu vois, un petit peu le secret inavouable, certains qui mangent des tagadas sur les chemins de trail, tu vois, qui ont toujours des bonbons sur eux, d'autres qui ont un plat préféré, tu vois, ou une boisson qu'ils ne boivent jamais en dehors des compétitions, mais qui pendant la compétition leur font envie. T'as des trucs comme ça, t'as remarqué que t'as des choses particulières, toi?
Après c'est plus vestimentaire, où je porte régulièrement des chaussettes de contention, ouais, en mode claquette, et souvent, et du coup pour quand je sors avec les enfants, ils ont un peu honte. Sinon sur l'alimentaire, je bois beaucoup de ceinture. Après, j'ai pas de petit, à part ceinture et banane, régime un peu particulier, mais non, non, j'ai pas de petites choses particulières qui sortent de l'ordinaire, entre guillemets, sur les courses ou sur mes entraînements.
Alors, c'est aussi une question qu'on va te poser. C'est parce que c'est un des trucs qu'on partage, etc. Est-ce que tu vois, est-ce que tu as un plat, une recette, tu sais, après, ça peut être après un entraînement, ça peut être après une compétition, un truc, tu sais, un truc qui te fait souvent envie, tu vois, ou une petite recette que tu aimes bien faire en famille, tu vois, pour dire, bah tiens, ça fait plaisir à tout le monde et moi, ça me fait particulièrement plaisir.
Ça reste simple avec les enfants, et vu que voilà, quand je suis à l'approche des compètes, je suis plus féculent, donc ça peut être pâte complète ou riz complet, donc je suis plus sur des pâtes à la carbo. Voilà, après sur des moments où on est un peu plus en famille, ça va être des bons petits plats cuisinés avec légumes, ça peut être poisson ou un peu de viande de producteurs locaux. Voilà, donc, comme je disais précédemment, je varie beaucoup quand même les repas, donc, et puis j'ai ma petite femme qui cuisine très très bien, donc on peut très bien manger à la fois des plats un peu, voilà, ordinaires, d'autres plats un peu plus orientés, Asie, etc., ou épicés. Voilà, je varie les plaisirs.
Oui, puis en discutant avec certains autres invités, etc., c'est vrai qu'après, ils ont des astuces, tu vois. Par exemple, Cécile Bertin, qui court dans le désert, elle disait qu'elle mangeait de la soupe miso parce que c'est salé, tu vois, ça lui redonne beaucoup de sel, par exemple. Moi, c'est un truc auquel j'ai pas pensé. Elle me disait, bah, tout ce qui est plat asiatique, par exemple, permettent aussi de se faire plaisir tout en ayant, tu vois, des apports en sel, justement, ce qu'on perd
Ça.
beaucoup. Parce que là, tu disais, le nombre d'heures que tu t'entraînes, donc la transpiration, etc. Je sais pas d'ailleurs, peut-être t'as des, tu parlais des eaux gazeuses, etc., qui sont importantes là-dessus. Peut-être que tu fais. Est-ce que tu es surveillé d'ailleurs? Est-ce que tu surveilles si elle est. Enfin, je sais pas si on peut surveiller les niveaux d'ailleurs, mais probablement.
Oui, on peut. Après, je suis pas rendu à ce niveau d'expertise là, mais oui, c'est fait sur les sportifs de haut niveau. Après, au niveau des os, je sais que c'est la personne justement qui fabrique les barres 42 Délices qui me conseillait l'eau de Quinton, qui est une eau puisée en profondeur, très riche en minéraux, qui est parfaite pour la réhydratation, un peu comme ce qu'on utilise pour la réhydratation un peu des enfants finalement. Voilà, c'est des eaux pas très très bonnes, mais qui sont très efficaces pour la réhydratation. J'ai utilisé une ou deux fois. Après, c'est particulier, donc mais en récupération, ça peut être une bonne solution.
Ouais, parce que le quinton, en fait, c'est de l'eau de mer, quoi,
C'est
grosso
ça,
modo,
c'est ça.
pure, filtrée, etc. Et j'ai
Exactement.
vu, et c'est vrai que c'est un truc qu'il faut que je regarde, parce que j'ai vu, ma femme qui fait des études de naturopathie m'a sorti ça l'autre jour. A
Ouais.
priori, on peut les mettre dans ces boissons de récup, ou je crois que c'est de récup, hein. Faudrait pas, je voudrais pas te dire n'importe quoi, mais on peut les utiliser, justement. Elle m'a dit, oh tiens, tu pourrais mettre ça dans ta. Je sais plus si elle m'a dit ça dans ma gourde, pendant ou après la course. Je sais pas si toi, t'as essayé ça.
Pendant, on peut le faire aussi. Ouais. Après, on peut diluer, mettre très bien avec du jus de raisin aussi. Après, c'est pas super au niveau du goût, mais le jus de raisin est un peu antioxydant. Voilà, donc c'est un bon compromis. Ou mettre même, j'ai jamais testé sur les mélanges qu'avaient conseillé Pascal et Leïla, mais avec du miel en plus et du jus de citron, ça pourrait peut-être aussi être un bon compromis.
Oui, effectivement. Et c'est vrai que maintenant que tu le dis, tu vois, puis avec les discussions comme ça me fait ça tilte et je me dis tiens, c'est un truc effectivement qu'il faut que je teste. Bah écoute, c'était super sympa d'avoir ton avis comme ça. Pour finir quand même, tu vois, alors moi je dis je vais aller petit à petit pour me lancer le défi de voir ce que c'est qu'un triathlon, donc petit à petit. Quelqu'un qui veut se lancer dans le triathlon, tu vois, ou qui veut progresser dans le triathlon, tu donnes quoi comme conseil? Globalement, hein, j'ai envie de dire, au niveau de l'entraînement, au niveau de comment on aborde cette discipline, enfin, qui a trois grandes composantes. Comment toi, quel serait le conseil, tu vois, que tu donnerais aux triathlètes néophytes, débutants ou qui veut progresser?
De prendre son temps déjà, si on se fixe un objectif, surtout sur quelque chose de long comme les Ironman, il faut prendre le temps en amont de se préparer dans un premier temps en fonction de comment on est à l'aise en natation. C'est pas la majorité de la discipline, mais si on sort complètement explosé et qu'on souffre derrière, on va avoir du mal à enchaîner le reste. Donc bien travailler quand même la natation pour être le plus à l'aise possible et dépenser le moins d'énergie possible. Après, le vélo, il suffit d'en faire régulièrement et puis d'allonger les sorties en fonction de l'objectif fixé. Ça va. Voilà, je pense que c'est la discipline qui, même si on passe beaucoup de temps, qui n'est pas la plus compliquée pour progresser. Au fur et à mesure du temps, on prend en endurance, au niveau de la position, etc. Pourquoi pas se faire aider justement pour être bien à l'aise sur son vélo, parce que surtout quand on est sur des distances Ironman où on passe 5 à 6 heures sur son vélo, voilà, si on est dans un inconfort, ça risque d'être très très compliqué. Et puis en course à pied, c'est d'y aller aussi progressivement. Il faut savoir que le corps s'habitue au fur et à mesure. Donc si on démarre vraiment fort en course à pied aussi, ou même voilà, après ça dépend du passif, mais on a des risques. Moi, pour avoir été nageur, hein, finalement, avant de pas avoir trop trop couru, au tout début, je me suis blessé un petit peu au niveau des genoux, etc. Plus syndrome de l'essuie-glace, etc. Et donc, il faut prendre le temps justement de se muscler, de franchir les étapes, pas vouloir mettre trop de vitesse dès le départ, alterner un peu de fractionner, faire des sorties un peu plus longues, et puis voilà, au fur et à mesure, d'enchaîner quelques disciplines, et ça se construira tranquillement. Et normalement, en mettant tout ça en place, je pense que le premier objectif passera les doigts dans le nez et les pratiquants pourront prendre du plaisir justement le jour J.
Ouais, mais en fait, il y a quand même un point, c'est vrai que c'est ce point de la natation qui, je pense, moi, en tout cas, je sais que moi qui nage comme une pierre, c'est vite vu. Et pour avoir fait un swimrun l'an dernier qui était très compliqué, je sais en plus à quel point, parce que j'en ai parlé il y a pas longtemps avec quelqu'un qui voulait faire du triathlon. Il m'a dit, moi, ma hantise, c'est le départ, c'est tout le monde part comme ça et tout. Et alors, j'en ai parlé un jour avec Marine Leleu. Elle m'a dit, bah, écoute, Bertrand, c'est simple. Comme tu sais que tu nages pas vite, tu laisses partir tout le monde et
C'est
puis tu nages
ça.
tranquillement.
Et ben là, t'as eu un bon conseil parce que c'est vrai que des fois, il y en a, ils se mettent devant et ils passent dans la machine à laver. Hein, donc, c'est vrai que là-dessus, c'est un point important. Le positionnement au départ de natation, en fonction, il faut en gros savoir estimer son niveau pour se placer soit, effectivement, si on est un peu moins à l'aise en arrière ou sur les côtés. Même sur les côtés, et c'est même un très bon compromis puisque derrière on va pas être tout le temps dans la bagarre tout le long du parcours. Donc voilà, ça c'est une partie on va dire importante à gérer en amont.
Il y a une question aussi que je me pose, c'est comment on travaille les transitions? Tu as des séances d'entraînement spécifiques transition, passer de l'un à l'autre, etc.
Bon, après, c'est très ludique, hein, ça peut être fait ouais, chez soi. Donc, dans un premier temps, oui, on s'entraînait sur des différentes séances où on est sans sortir de l'eau forcément, mais on prépare le vélo comme le jour J. On arrive en courant, on met le casque, on met les lunettes, la ceinture porte-dossard, et puis soit on met les chaussures, soit elles sont déjà clipsées dessus. On prend son vélo, on court, on monte dessus, on met soit directement on cale, soit les pieds dans les chaussures, et puis c'est parti. Et à l'inverse, quand on arrive du vélo, donc on essaie d'enlever ses chaussures sur le vélo, donc c'est-à-dire qu'on sort les pieds de la chaussure, on le pose dessus, on descend du vélo en marche, et puis là après on arrive, on pose son matériel, son casque, on enfile les chaussures et on part en courant. Donc oui, ça se travaille, même des fois pour être plus ludique avec les collègues de club, on se fait des petits défis du plus rapide, etc. Donc c'est sympa.
Ouais, comme ça, c'est. Ouais, c'est vrai que c'est drôle. J'ai vu des entraînements en fait sur Instagram où ils
Ouais.
faisaient des parcours dans des parcs. Ils passaient du vélo à la course, etc. Dans
C'est
un
ça.
sens, etc. Donc tout ce travail, hein. Et tu disais aussi, tu travailles la nutrition notamment. C'est intéressant de dire que tu travailles ces fameuses produits qui sont mis sur les ravitaillements, etc. J'imagine ça dépend un peu des sponsors,
C'est ça.
de ces choses-là. Hein.
Oui, donc chaque course va être différente en fonction des organisations. Ils vont obtenir différents partenariats. Et là, à nous, en tant qu'athlète, de surveiller ce qui se fait et de se préparer à l'avance pour pas être surpris et avoir une mauvaise surprise le jour J. Parce que surtout quand on est sur du long, c'est quand même un investissement assez conséquent tout au long de l'année. Et si on arrive et qu'on est perturbé par soit tout ce qui est produits solides pour manger ou l'hydratation, ça serait quand même dommage de gâcher tout un investissement derrière le jour de l'épreuve en n'ayant pas fait le choix de tester les produits au préalable.
Et puis j'imagine en plus tu t'enlèves un stress
Oui, en
incroyable.
plus, oui. Ouais, non, on sait à quoi s'attendre, on connaît les goûts. Ouais, non, oui, ça fait partie, je pense, intégrante si on veut. Si on veut perfer un petit peu, on n'a pas le choix que de faire attention à ce point sur la nutrition.
Bon, et eh ben écoute, on va conclure là-dessus. C'était super intéressant de discuter avec toi de tout ça. Alors, l'Embrunman, c'est quoi? C'est au mois d'août?
Ouais, ils sont au 15 août, ouais.
Ouf, oh, il peut y faire chaud en plus, hein.
C'est ça. C'est à la fois très parce que là-bas, il peut faire très chaud en bas, très lourd dans la vallée, et puis il y a des années où ils avaient zéro en haut de l'Izoard, donc c'est la particularité.
Oui, puis ça, c'est difficile de s'entraîner en ce moment
Ouais, non.
pour se dire on va
Ouais.
rouler à zéro.
Ouais, non, non. Et après, bon, ouais, il y a toujours, pour la petite anecdote, l'année dernière lors des championnats de France longue distance que j'avais fait sur Cagnes, qu'on est arrivé en milieu de semaine, l'eau était à 24 degrés, 23. On m'a dit, bon, super, ça va être, la natation, ça va être sympa, on va pas être trop froid. Et puis, il y avait une première tempête, là, avant les grosses tempêtes du sud, avec un gros mistral qui, en fait, a chassé toute l'eau chaude vers le large et ramené l'eau froide vers la berge, quoi. Et au matin de l'épreuve, elle était à 14. Donc là, on a calmé plus d'un. Donc, il y avait deux tours à l'époque, il y avait 3 km de natation, donc il y a deux tours de 1500. Et certains sont sortis à 1500 et ne sont pas retournés sur le deuxième tour. Donc là, j'avais travaillé en amont. Et là, c'est un peu une part de chance. J'avais fait un peu d'eau libre en Bretagne. J'avais fini en hypothermie d'ailleurs, et je pense que ça m'a servi. Comme quoi, toute expérience est bonne à prendre.
Ouais, mais c'est vrai. Et puis, c'est vrai que cette température de l'eau en triathlon, c'est quand même un truc. Surtout sur Ironman, la discussion sur est-ce qu'on a le droit de nager avec la combi, pas la combi. Les mauvais nageurs ils disent ouais, si j'ai la combi, je vais être un petit peu aidé pour que ça fasse un peu plus froid, etc. Il y a tout un tas d'habitudes, et c'est vrai que c'est intéressant. On pense pas à tous ces détails-là. Et c'est vrai, comme tu dis, l'expérience. Hein, chaque petite expérience permet d'engranger des choses.
C'est ça.
Tiens, tes expériences, tu t'imagines, tu as une course, tu as quelque chose qui te fait rêver, toi, dans ta. Une fois que tu auras fait l'Embraman, tu as déjà un plan, tu vois, pour la suite?
Pour la suite, ça va être de me fixer d'autres objectifs. Après, c'est sur le plan Ironman, donc il y a le label 70.3, donc c'est Alf. J'aimerais pourquoi pas me qualifier au championnat du monde. Sur une des années là, dans les années à venir, pour justement profiter et découvrir un peu un autre pays. Les prochains sont en Nouvelle-Zélande, après il doit y avoir les États-Unis, etc. Donc ce sera un gros projet aussi familial où on pourrait tous partir ensemble et profiter de cet événement. Donc voilà, ce sera, je pense, mes prochains objectifs, et après me faire plaisir aussi avec le club. On est sur un petit club, hein, c'est l'Ernen Triathlon, un club familial, convivial, avec des petits jeunes qu'on a formés et qui arrivent là, à maturité, entre guillemets, à pouvoir faire des courses de niveau national. Et donc, c'est apporter l'expérience, justement, pour qu'eux prennent du plaisir et puis évoluent dans la discipline.
Ouais, puis c'est sympa, parce que c'est un sport je sais pas quel âge les enfants peuvent commencer, mais ils peuvent commencer assez jeunes, hein.
Oui, dès 6 ans à l'école de triathlon. Donc là, ça va être très, très ludique. Par rapport à un enfant qui a pratiqué un seul sport, là, et tout, à chaque fois, il y a des situations différentes. Un peu de run and bike, des petits défis, des petits jeux. Non, c'est vraiment sympa, de la maniabilité. Et puis, au fur et à mesure, ben, voilà, la partie, entre guillemets, performance, réglementation va entrer en jeu, et puis chaque enfant, après, on fera le choix soit de continuer en loisir, soit de s'orienter vers la compétition.
Et ben oui, et je pense que c'est vrai que c'est un sport qui est tellement complet, qui a tellement de choses différentes, comme tu disais, hein, ceux qui sont un peu, ils se trouvent un peu monotones, certaines activités, là au moins il y en a un petit peu pour tous les goûts, avec différentes choses à tester, différentes compétences, différents muscles qui travaillent, etc., puis des manières de pratiquer différemment. Je pense que c'est un sport qui attire en tout cas de plus en plus de monde, parce qu'on voit que la Fédération de triathlon, en plus, elle est très active, elle arrive vraiment à faire des choses. Et puis, sur des distances courtes, parce que sur les distances longues, c'est différent, mais sur les distances courtes, en plus, qui deviennent de plus en plus télévisuelles, en plus, il y a des parcours maintenant, il y a des trucs, quand on regarde à la télé, les nouveaux parcours avec les pros et tout, il y a des trucs qui sont... J'allais me dire presque marrant à voir, à regarder. Alors, je sais pas si c'est marrant à faire. Je sais pas si t'as déjà essayé là-dessus, mais ça a l'air marrant, en tout cas. C'est télévisuel, je trouve.
Oui, ils ont joué le jeu à fond. Après, plus c'est court, souvent, plus c'est intense. Donc, ça fait très, très mal. On va très loin dans la douleur au niveau de l'effort. Mais, effectivement, c'est prenant, parce que, voilà, il y a peu d'écart entre chaque athlète, notamment sur les relais mix au niveau là, il est au programme des JO. Tout ce qui est Super League, etc., où on est sur des distances plus courtes, même avec des enchaînements où ils vont nager, faire du vélo, retourner nager, courir, ainsi de suite. Donc c'est vraiment des disciplines là où ils ont joué le jeu pour médiatiser à fond. Et effectivement, tout le monde découvre à la télé, ça donne envie de pratiquer. Après, c'est une bonne chose aussi, hein. Dans le sport, on va développer des valeurs très très intéressantes, donc chacun après a le libre choix de choisir son activité, mais en tout cas la Fédération française de triathlon s'en donne les moyens.
Oui, et c'est vrai que et puis en plus avec les il y a des chances de médaille, hein, tu disais aux JO en plus, et donc ça va en plus donner de la visibilité si c'est le cas, et c'est
Oui.
toujours des courses qui sont très spectaculaires, et donc bah les gamins et puis même les grands gamins aussi que nous sommes tous, c'est là où aussi on se dit tiens, ça me donne bien envie d'en faire en fait.
Non, bah oui, là-dessus, on a, voilà, quand il y a quelque chose qui nous plaît à la télé, souvent on a envie de faire pareil dans la réalité. Et puis, bah, mine de rien, la France, on est un pays au niveau triathlon plutôt bien placé, avec Vincent Huyssen qui maîtrise son sport totalement depuis un certain temps. Et je pense que même au niveau des différents championnats qu'on peut avoir, c'est les championnats de division 1, hein, triathlon ou voire duathlon, on a les meilleurs athlètes internationaux qui sont dans les équipes françaises. Non, c'est vraiment plaisant de pouvoir voir ça. Même là, sur les grands prix, on voit quasiment des courses de niveau international comme les Coupes du Monde ou Championnats du Monde. Tout le monde est là, c'est hyper dense, c'est hyper prenant. Donc, non, quand on aime ça ou quand on est simple spectateur sportif, je pense que ça donne envie.
Et tiens, alors une dernière question que j'avais, parce que après je coupe, mais il y a les triathlons aussi en format, alors je sais pas comment, j'ai perdu le nom et je m'en excuse, tu sais, en format, comment ça s'appelle, plutôt VTT,
Ah
trail,
oui, petite
etc.
nature, ouais. Xterra, Vétathlon, des choses. Donc Vétathlon, c'est un peu de trail, un peu de VTT, et Xterra. Donc c'est les triathlons nature, ouais. Après etc. c'est un label, mais du coup ouais, c'est natation, donc là voilà, ça change pas en extérieur. Après c'est VTT vraiment, après plus technique, et puis on finit par un trail. Après les distances pareil, ça varie en fonction des disciplines, mais je pense que ça attire pas mal, surtout pour les amoureux encore plus de la nature. Après on retrouve dans ces disciplines aussi des triathlètes où ils vont être un petit peu moins bons nageurs, et du coup très 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 fort et très technique sur le vélo, et puis très fort en trail, et ils vont pouvoir du coup sortir leur épingle du jeu.
C'est une discipline qui te tente.
Pas pour le moment, je suis pas très à l'aise sur un VTT. J'ai pas fait beaucoup de vélo en fait avant de commencer le triathlon, et surtout le VTT avec les cales. Je pense que j'aurais beaucoup de travail quand même sur la pratique, même si je suis un peu casse-cou, vu ce que j'ai pu voir à la télé. Il y a encore du boulot, sinon je participerais à Vidéo Gag ou des choses comme ça, mais ça va.
Ouais, mais puis j'avais eu Marion Laure Blanchet dans le podcast à une époque, et qui a fait du Xterra, qui était dans les
Oui.
toutes meilleures mondiales, qui était pro, et il y a des photos des descentes qui leur font prendre, et je dis,
Ah
mais
ouais, non, c'est.
comment tu te balances de là-haut et tout? Elle me dit, bah, on n'y pense pas trop.
C'est ça.
C'est vrai, et c'est dingue, hein, c'est vertigineux, les descentes, etc., avec des sauts, des trucs comme ça. Par rapport à la route, c'est encore une autre discipline. Et ben voilà, et ben je pense qu'on a fait un très bon tour, je suis sûr qu'il y a plein de gens. Qu'auront envie de suivre un petit peu, bah, découvrir un petit peu plus, hein, de glaner aussi tous ces conseils, parce que tu nous as donné plein d'astuces, hein, sur ce que tu fais, comment tu prépares, etc. C'était super intéressant, je te remercie beaucoup. Ce qu'on va faire avant de se quitter, c'est où est-ce qu'on peut te suivre pour voir, pour t'encourager, pour si on veut t'envoyer des messages, si on veut suivre tes performances.
Donc après, j'ai deux comptes sur les réseaux sociaux orientés plus sur la pratique, avec plus un compte perso et puis des comptes sportifs. Donc c'est Adrien Leroux Triathlon sur le Facebook, ou Adrien Leroux Tri sur Instagram. Et donc après, ne pas hésiter à, si des personnes ou des nouveaux pratiquants ou même pratiquants ont besoin de conseils, je serai là pour leur répondre si besoin. Donc ne pas hésiter à venir prendre contact.
Et ben voilà, et je mettrai bien entendu tous les liens dans les notes de l'épisode. Je te remercie beaucoup Adrien pour tous ces
Merci
conseils
beaucoup aussi
et pour
également.
cette heure passée avec toi, c'était vraiment super intéressant. Tu vois, moi je vais réécouter, je vais noter tous les petits conseils parce que, enfin, il va falloir que je m'y mette un petit peu. Je t'ai pas demandé comment on faisait pour mieux nager, mais là moi, enfin, vraiment pour moi, là maintenant c'est faut que je trouve un maître nageur, notamment parce que la glisse, moi c'est ce qui manque, c'est la glisse et c'est ce qui épuise, c'est ce qui fatigue, c'est ce qui puise aussi dans les réserves et l'énergie.
Oui, au niveau de la natation, oui, il y a plein de petites choses. Quand on a nagé depuis tout petit, ça, on a l'impression que c'est facile, mais non, c'est pas inné. Donc, il y a de bons conseils à prendre. Et l'erreur à ne pas faire, je pense, c'est de vouloir justement commencer soi-même et de progresser tranquillement avec des mauvaises habitudes. Alors que si on fait le choix de prendre des cours de natation avec un maître nageur dès le début, on va prendre les bons conseils, les bonnes choses, et on va pouvoir progresser correctement au fur et à mesure, sans trop se fatiguer. Voilà, comme on parlait tout à l'heure de glisse, faire les bons mouvements, l'amplitude, les bons appuis, et puis au fur et à mesure, ça va se construire. Alors que voilà, à l'inverse, si on démarre tout seul, on prend souvent des mauvaises habitudes, des mauvais appuis, on dira finalement. Ouais, c'est compliqué, je m'en sors pas, je me fatigue. Et puis là, on va se dire, bon, on va peut-être finalement prendre des cours parce que là, je m'en sors pas. Et voilà, si on l'avait fait dès le départ, je pense qu'on aurait gagné son temps et son argent.
Et ben voilà, et ben écoute, c'est une très bonne conclusion. Je te remercie beaucoup, Adrien, pour tous ces conseils. Je mettrai bien entendu tous les liens dans les notes de l'épisode pour qu'on retrouve, pour qu'on puisse t'encourager, pour qu'on puisse te suivre. Je te souhaite
Merci
une belle
beaucoup.
préparation. Je te souhaite un bel Embrunman, hein. C'est une
Merci.
course mythique, vraiment mythique, hein, sur lequel il y en a beaucoup qui se sont essayés, hein. Il y a même le Tour de France qui avait fait l'étape vélo, je crois, un jour, hein.
Oui,
Ils avaient fait cette étape-là.
ils sont passés plusieurs fois, oui.
Ouais, pour dire à quel point ça fait partie des belles difficultés, hein, des Alpes, etc. Et ben moi, tu vois, je me suis abonné à tous tes comptes, je vais suivre, et je t'enverrai un petit encouragement, et je suis sûr qu'on a plein d'auditeurs qui feront la même chose. Merci
Merci
beaucoup,
beaucoup.
Adrien, et puis nous, ben on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode avec un nouvel invité. Ciao, ciao!
Merci, à bientôt.
Voilà, c'est fini. Mais si vous êtes encore ici, c'est que vous avez adoré cet épisode. Alors aidez-nous à faire connaître ce podcast en le partageant, par exemple, sur Instagram, @podcastsportetnutrition, et en laissant votre avis et une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aidera beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour le prochain épisode.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.